religions du monde, Geneviève Delru.
Le monde rural est un monde, un espace passionnant où il y a des hommes et des femmes qui sont engagés, qui cherchent à réussir leur vie, à faire réussir la vie des autres. Et pour un prêtre, vraiment, c'est du pain béni, si j'ose dire.
On n'est pas là pour voir que tout est rose. On est là pour faire quelque chose. Et chaque fois qu'on remarque qu'il y a un creux, qu'il y a un vide, ça signifie que voilà, c'est pour cela qu'on est là et qu'il y a du travail à faire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils sont les acteurs incontournables et les observateurs du monde rural français. Et sans eux, bon nombre de campagnes seraient un désert spirituel. Qui sont-ils? Ces curés de campagne qui résistent au recul de la pratique religieuse et au déclin de bon nombre de territoires. Prêtres français, souvent proches de la retraite, jeunes prêtres africains envoyés par leur évêque au titre de la mission pour prêter main forte à une église en manque de ministres du culte. Ils sont les visages de l'église des campagnes françaises et nous vous proposons de les rencontrer à travers ce reportage dans l'Aube et dans la région centre, aux confins du Limousin et du Berry, appelé Marche Limousine.
J'avais vraiment envie d'avoir une expérience paroissiale et ça s'est bien passé, j'ai été très bien accueilli et vraiment je suis content d'être là, je suis heureux dans ce travail, dans ce ministère.
Daniel Boulier est le curé de Ménil-Saint-Loup dans l'Aube et vit à Estissac, une petite ville située à une vingtaine de kilomètres de Troyes. Il est arrivé en 2017 à l'âge de 72 ans, à la fin de son mandat de supérieur général des Fils de Marie Immaculée. Ancien élève de Sciences Po Paris, passé par la banque, le père Daniel Boulier avait en effet choisi cette congrégation vendéenne, basée à Chavagnes-en-Payet, quand il s'est engagé dans la vie religieuse, qu'il a notamment conduit 3 années au Togo et 5 au Burkina Faso. Sa paroisse de 2000 habitants regroupe 5 clochers, avec une pratique religieuse dans l'ensemble plus forte que la moyenne nationale, avec pas moins de 150 fidèles le dimanche à la messe. Le père Daniel Boulier a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part de ses paroissiens qui semblaient l'attendre, il confirme.
Oui, parce que dans toutes les zones rurales, beaucoup se demandent si c'est pas le curé qu'ils ont, c'est pas le dernier, parce que comme il y a une diminution vraiment importante et constante du nombre de prêtres, c'est vrai que la question c'était de savoir est-ce qu'ils auront encore un prêtre un peu pour eux, quoi, un peu en proximité, parce qu'il y aura toujours un prêtre. Mais au lieu que ce soit pour proche d'eux, avec un petit nombre de clochers, un prêtre qui a une trentaine de clochers, c'est pas la même chose qu'un prêtre qui n'en a que 5, comme actuellement j'en ai.
La population à la campagne, c'est pas du tout la même pastorale que si vous étiez prêtre dans une ville. Et qu'est-ce qui est différent? La proximité, les attentes des paroissiens?
Alors je pense que le fait d'être dans une grande ville, ça atomise un petit peu les relations. Il y a tellement de monde que, et puis le territoire est quand même très dense en ville, et on peut pas avoir cette même proximité. Moi, comme il y a à peu près en général 100 à 150 personnes à l'Eucharistie le dimanche, je connais pratiquement tous les paroissiens par leur prénom. Donc, et je suis invité régulièrement dans les familles. Donc, ce qui fait qu'il y a une proximité qui s'installe, qui est très loin de l'anonymat, qu'on le veuille ou non, s'installe en ville ou dans des paroisses où il y a plus d'habitants. Dans la paroisse où je suis, il n'y a que 2000 habitants, donc sur 5 clochers, 5 villages. Et finalement, j'arrive à connaître pratiquement chacun des paroissiens. Je connais pas tous les habitants, bien sûr, mais je connais les 200 ou 300 paroissiens plus ou moins réguliers. Voilà.
Ici, vous habitez une maison vaste où les enfants de la paroisse peuvent venir pour la catéchèse, etc. Mais c'est une vaste maison. Il y a peu de religieux dans cette maison puisque vous vivez uniquement avec un autre religieux. Est-ce qu'il y a une forme de solitude ou au contraire, vous ne ressentez pas la solitude?
Non, je ne peux pas dire que je ressente la solitude. D'abord parce que l'emploi du temps est assez chargé. Donc je passe rarement une journée sans avoir une réunion, une visite, une invitation. Et voilà. Donc non, je ne peux pas dire que je ressente la solitude. Et puis, même si on n'est que deux dans cette maison, mon confrère est aussi religieux de la même congrégation que moi. Il est curé de deux autres paroisses voisines de la mienne. Et voilà, donc on prie ensemble, on a l'Eucharistie. Quand on ne l'a pas ailleurs, on l'a ensemble dans la maison. Et puis on a l'office du matin, du midi et du soir quand on peut. Donc il n'y a pas vraiment de solitude, voilà.
Et vous faites vos courses, vous oui. cuisinez, oui. Le ménage, vous avez...
Tout à fait, moi, on s'est réparti le travail, mon confrère fait la cuisine et moi je fais les courses et la vaisselle, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on se débrouille et bon, ça se passe assez bien. Comme moi je suis pas un grand cuisinier, je préfère supporter la cuisine d'un autre que de la faire supporter, que faire supporter la mienne, voilà. On aimerait être plus nombreux, évidemment, comme religieux. Ce serait une communauté plus étoffée. Ça n'en serait que mieux, mais je pense qu'on se débrouille pas mal.
Qu'est-ce que vous mettriez au premier rang des difficultés du monde rural ? Est-ce que ce sont d'abord des difficultés économiques, avec des exploitations qui peuvent être certaines années dans le rouge ?
Oui, ben ça c'est un sujet constant en France. Hein, ça a toujours été le cas depuis les progrès de la mécanisation et tout. Et ça ne va qu'en s'amplifiant avec la mondialisation et les difficultés de vendre des produits, c'est certain. Puis il y a les difficultés climatiques en plus. Mais moi, je m'en tiens au domaine religieux. Ce qui me paraît dominer, c'est une certaine déchristianisation de tous les milieux. Autrefois, le monde rural était davantage chrétien et les villes plus éloignées, alors qu'actuellement, on se rend compte que la foi, elle se transmet plus facilement. Il y a comme un retournement où c'est dans le rural qu'il y a peut-être la plus de déchristianisation actuellement, à la différence des villes qui semblent plus résister en ce domaine. On retrouve un peu le clivage d'autrefois. Vous savez que le mot paysan vient de paganus. Et paganus, ça veut dire païen. Parce que le christianisme s'établissait d'abord dans les villes et les zones rurales restaient païennes. Donc du coup, c'est le mot paganus qui s'est appliqué aux zones rurales, mais qui est à l'origine païen. Donc on va revenir à ce que signifiait le mot et que effectivement le paganus rural va se retrouver vrai comme païen alors que le citadin serait le plus chrétien des deux.
La campagne, et ça on l'a très bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, se sent abandonnée au profit des métropoles, hein. De la capitale, ça, bien sûr, ça c'est pas nouveau, mais est-ce que là précisément le curé, il a un rôle à jouer ?
Oui, très certainement. C'est-à-dire, moi, je le vois surtout au niveau des paroissiens réguliers que je fréquente. Aussitôt qu'il y a une difficulté familiale, un deuil ou un drame familial ou des problèmes même financiers, c'est pas rare que les chrétiens m'en parlent. Et je suis toujours... Je les écoute et puis j'essaie de trouver des solutions avec eux.
Dans la mesure où vous avez été banquier dans le passé.
Oui,
hein.
c'est sûr. Et puis, il y a aussi, quand il y a un deuil, on voit des gens qui ne sont pas des pratiquants réguliers. Et on se rend compte à ce moment-là que des gens qu'on peut considérer comme très éloignés de l'Église, et des fois, c'est vrai que c'est un peu... Quand on a une grande assemblée avec les gens ne répondent pas aux prières, on voit bien que ce sont pas du tout des gens habitués. Mais malgré tout, il y a toujours quelque chose qui passe. Et quand on rencontre ces familles en deuil, on se rend compte qu'il y a toujours un substrat de foi qui est là. Et c'est très important d'être présent et de pouvoir parler avec les gens, les aider. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas enfermer les gens derrière des étiquettes. Il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans toute cette population qui est là, les 2000 habitants qui dans les villages qui me sont confiés là, pour le ministère, eh bien, il n'y a pas les bons qui sont les 200 à peu près pratiquants, 200 à 300 pratiquants occasionnels et réguliers. Alors qu'il y en a une moyenne à peu près toujours, comme je disais, de 100 à 150 à la messe, mais comme c'est pas toujours les mêmes, donc il y a à peu près 200 à 300 peut-être pratiquants réguliers ou occasionnels. Eh bien, il n'y a pas les bons d'un côté, les réguliers et les occasionnels, et les mauvais qui seraient ceux qui viendraient jamais à la messe, parce que ces gens qu'on rencontre uniquement à l'occasion d'un deuil ou même d'un baptême, ou voilà, pour des célébrations, eh bien on se rend compte qu'ils ont un intérêt pour la foi et qu'il y a quelque chose qui résonne en eux quand on parle de cela. Et le prêtre, il est aussi envoyé pour ces gens-là. Et moi, mon grand souci, c'est ça, c'est la grande question. Et à mon avis, c'est la grande question de l'Église. Je crois même que l'évêque de Troyes se posait la question dernièrement, là, dans un article, comment se faire proche de ces gens qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas, voilà. C'est ça, comment se faire proche de tous ces gens, c'est ça être missionnaire, comment aller voir les gens, leur parler, montrer qu'on est là, qu'on est aussi là pour eux. Et ça, Jésus savait le faire, il savait être proche de tous. Et comment nous, on peut garder un peu de temps dans notre emploi du temps qui est souvent chargé, comment trouver du temps pour aller chez les gens? Et c'est pas si simple que ça, parce que comment trouver une raison d'aller les voir et puis de parler? Voilà. Je crois que c'est la clé là d'un renouveau et d'une proximité plus grande de l'Église avec l'ensemble de la population.
Père Daniel Boulier, prêtre du Ménil-Saint-Loup et membre de la congrégation vendéenne des Fils de Marie Immaculée. Et nous restons dans l'Aube avec le père Didier Noblot, curé de Nogent-sur-Seine, situé à 100 km à l'est de Paris, qui, comme Estissac et le Ménil-Saint-Loup, dépend du diocèse de Troyes. Didier Noblot a été le directeur adjoint du service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations. Né à Bar-sur-Aube en 1965, ordonné à l'âge de 27 ans, il est un enfant du pays et fait partie des 72 prêtres que compte le département. Un département qu'il sillonne avec sa voiture.
Je ne peux pas envisager d'être prêtre à la campagne sans me déplacer. Sans me déplacer pour aller faire des courses, pour aller rejoindre telle famille, pour aller célébrer une messe dans un village, pour rejoindre d'autres prêtres pour échanger ensemble, pour aller vivre un temps de formation, pour aller acheter un livre. Bien sûr, on pourrait toujours commander par des voies informatiques, mais si c'est la rencontre qui est le cœur de la vie du monde rural, et je crois que ça l'est, bien il faut se déplacer, il faut bouger, il faut nos voitures, il faut de l'essence, il faut du carburant.
Combien de kilomètres par jour, combien de kilomètres par an ?
Je suis autour de 300 km par semaine, dès qu'il faut se déplacer pour aller rencontrer tel ou tel. Ça augmente quand il faut faire un déplacement dans la grande région, Grand Est ou Champagne-Ardenne-Picardie. Pour rejoindre des homologues, il faut souvent faire beaucoup de kilomètres, parce qu'on est le seul dans telle responsabilité sur des territoires ruraux.
Vous êtes très sensible au mot « territoire ». Alors, le mot « territoire », il est réapparu à l'occasion des Gilets jaunes, de la crise des Gilets jaunes.
Alors oui, territoire, c'est un espace où des hommes et des femmes vivent. Alors j'aime encore mieux dire terroir, parce que le terroir, c'est un territoire habité par des hommes et des femmes qui crient, qui pleurent, qui se débattent pour réussir leur vie, qui ont l'audace d'entreprendre et qui parfois ont des bâtons dans les roues et parfois ils sont un peu fatigués quand ils essayent de faire quelque chose et quand on leur casse leurs affaires ou quand on met un surcroît de réglementation. Le territoire, c'est cette notion en France, des hommes et des femmes cherchent à construire, à exister, à faire vivre des espaces. Beaucoup cherchent à ce que les gens vivent bien dans le monde rural. Hier soir, j'étais avec un maire qui a accueilli le nouveau curé, qui a préparé le verre de l'amitié pour les fidèles qui étaient là. Lui n'est pas baptisé, mais il a le souci que les hommes et les femmes vivent bien dans son village de 900 habitants. Un peu cité dortoir, parce que les gens viennent habiter là, parce qu'on peut avoir une surface plus grande que dans les villes. Mais il a ce souci d'un bien-être. Et il est un peu affolé quand il y a des incivilités ou quand il se fait bousculer.
Là, vous parlez de votre ville, de Nogent-sur-Seine.
Je parle de communes qui sont périphériques de Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine, c'est un village, mais quand même une petite ville, quand même 6000 habitants, avec de l'emploi, ce qui donne une cité assez tonique, assez vivante. Peut-être plus que d'autres communes de 6000 habitants en France ou en Europe. À Nogent-sur-Seine, il y a de nombreuses demandes de baptême, de mariage. Il y a toute une rencontre interreligieuse parce qu'il y a de nombreuses religions dans la commune. Il y a une vie associative qui est très riche et l'Église catholique se situe comme un partenaire reconnu.
Vous vivez avec un autre prêtre à Nogent-sur-Seine. C'est une vie communautaire ?
À Nogent-sur-Seine, au presbytère, la maison des prêtres, j'ai la chance de vivre avec deux confrères, un futur prêtre qui est en fin de formation et un jeune confrère qui vient de République centrafricaine, qui vient pour 3 ans être vicaire dans ce territoire. Et aujourd'hui, tous mes confrères prêtres qui veulent vivre avec d'autres prêtres dans le monde rural le peuvent. Je suis témoin que les évêques sont très attentifs à l'équilibre de vie des prêtres qui le souhaitent, pour qu'il ne soit pas seul, qu'il y ait une vie humaine, relationnelle, une vie de prière, un partage des questions de la commune, des questions d'annonce de l'évangile, des questions de mission, que tout ça puisse se partager. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de vivre avec donc 2 autres confrères.
Les jeunes prêtres qui arrivent, ceux qui se forment actuellement, est-ce que vous pensez qu'ils pourront rester à la campagne ?
Pour les jeunes prêtres qui sont nouvellement ordonnés dans nos diocèses ruraux et notamment dans le département de l'Aube, il peut toujours y avoir une appréhension à arriver dans des territoires qu'ils connaissent pas toujours. Ils ont vécu leur formation dans des grands centres urbains, ils viennent de mondes de la faculté ou des grandes écoles, ils ont fait des expériences professionnelles, les séminaires aujourd'hui sont dans des grandes villes. Il peut y avoir une inquiétude, une peur, une appréhension. Il faut qu'ils viennent vivre des temps de stage, des temps de découverte, parce que j'ai la chance de collaborer avec des séminaristes dans le département de l'Aube qui viennent en stage et ils découvrent la richesse du monde rural, la richesse des relations, la possibilité de recevoir et de vivre la vie chrétienne sur des territoires ruraux avec des mutations, avec des changements, mais il y a beaucoup d'énergie qui peut se déployer parce qu'on peut penser, je vais être prêtre en rural, je vais pas bouger pendant des années, il y a rien à faire, il y a peu de population. Le monde rural est un monde, un espace passionnant où il y a des hommes et des femmes qui sont engagés, qui cherchent à réussir leur vie, à faire réussir la vie aux autres. Et pour un prêtre, vraiment, c'est du pain béni, si j'ose dire.
Est-ce que la souffrance du monde rural, c'est ce qui domine, ou est-ce que c'est une vision trop pessimiste ? Il y a aussi un monde rural qui fonctionne bien. Ou est-ce qu'il y a ce monde rural, effectivement, qui affiche des comptes négatifs à la fin de l'année, qui est dans le rouge ?
Est-ce qu'aujourd'hui le monde rural est marqué par vraiment une apathie, une détresse, ou est-ce qu'il y a une vie positive dans le monde rural ? Il me semble qu'il y a des mondes ruraux et on ne peut pas faire un amalgame de tout ce qui se passe. Le monde agricole est malmené parce qu'il est critiqué injustement sur sa méthode culturelle. Aujourd'hui, les exploitants agricoles produisent bien, produisent des bons produits. Il y a plusieurs agricultures qui cohabitent dans l'Aube, des agricultures biologiques, des agricultures conventionnelles, un souci d'agroforesterie, agro-agriculture, de la conservation des sols. Donc, plusieurs agricultures cohabitent. Il y a un monde agricole qui peine, qui souffre, avec des fois 50, 60 heures, 70 heures de travail par semaine et des comptes de résultats économiques et financiers négatifs à la fin de la saison des moissons. Il y a à soutenir le monde rural en France et sûrement que la paroisse, la vie chrétienne locale, soutien, partage, échange, les célébrations de Saint-Éloi sont des moments de bilan aussi d'une année de vie agricole. Et donc ça, c'est assez passionnant. C'est un monde à soutenir. Les territoires ruraux qui ont la chance d'avoir des entreprises qui fonctionnent, qui trouvent des niches. J'habite dans une ville où il y a une entreprise qui fait de la protection incendie pour la navigation, et notamment la navigation sous-marine. Voilà, c'est très... Et il y a de nombreux salariés. Par contre, la difficulté du monde rural pour les entreprises qui fonctionnent, c'est de trouver des salariés, c'est de trouver des collaborateurs. Je suis témoin que de jeunes salariés, de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens font 1, 2 ans, 3 ans. Et ensuite, soit ils se lassent, soit ils veulent retrouver une ambiance urbaine avec des services qu'ils imaginent meilleurs. Ceci dit, avec l'arrivée des premiers enfants, souvent ils reviennent sur des territoires ruraux où l'espace sera plus agréable pour vivre, où ils pourront vivre avec leur famille dans plus de 40 ou 50 mètres carrés. L'accès à l'habitat sur les territoires ruraux est plus facile que dans des grandes métropoles.
Père Didier Noblot, curé de Nogent-sur-Seine.
Je suis bien là. Dès que j'ai été ordonné prêtre, je suis parti en Afrique. Mmh. Donc là-bas, c'était pas du tout rester au presbytère, c'était parcourir les villages, parcourir toujours en brousse, comme on dit. Hein. Et donc, voilà, moi, les grands espaces, ça me plaît. Moi, ça me pose pas de problème.
Comme Daniel Boulier, le père Jean Breté, 72 ans, est prêtre de la congrégation des Fils de Marie Immaculée. Tous deux vivent dans la grande maison paroissiale d'Estissac. Le père Jean Breté a vécu 30 années en Afrique, répartie entre le Cameroun, le Togo et le Burkina. À son retour en 2007, il s'est installé dans l'Aube et il est depuis 6 ans à Estissac, où il a en charge 20 clochers. Il coordonne cet ensemble pastoral de 11 000 habitants, où officient deux prêtres ivoiriens et un prêtre du Congo Brazzaville. Et il compare le dépaysement qu'il a vécu en arrivant dans l'Aube à celui des prêtres africains quand ils sont parachutés dans un diocèse rural.
Comme pour les prêtres africains, arriver là et qu'il n'y a personne, ou très peu, ça c'est évident. C'est tellement différent, comment on peut dire ambiance, au niveau spirituel, au niveau chrétien, que ça c'est difficile. Et, bon, eux ils sont originaires de Côte d'Ivoire, et y a quand même beaucoup de chrétiens. Sa vie, les messes sont remplies. Voilà, il y a quelque chose qui se vit. Et quand on arrive ici, on se retrouve dans une communauté où il y a presque que des vieux. Au niveau des jeunes, c'est difficile de les mettre en route. Au niveau de la catéchèse, c'est la même chose. Il y a toute cette difficulté. Et donc, pour eux, c'est difficile de s'adapter à ça. Et puis après, il y a tout aussi le contact avec les gens, alors que le contact en Afrique est très facile, et que ici, c'est plus compliqué.
Eh bien, je m'appelle Daniel Codeste, donc. J'ai 79 ans. Je suis prêtre, donc, à la retraite, en disponibilité, donc, auprès des prêtres, donc, qui résident à Argenton-sur-Creuse, trois prêtres du Bénin, arrivés ici depuis le mois de septembre.
Et nous partons à présent dans le centre de la France, dans la marche Limousine, à Saint-Benoît-du-Sault et à Argenton-sur-Creuse. Avant de rencontrer le curé d'Argenton-sur-Creuse, le père Roberto et ses deux vicaires, comme lui béninois, le père Daniel Godeste évoque les centaines de kilomètres qu'il a parcourus à travers la campagne.
S'il y a 53 communes, automatiquement, il y a pas mal de distance entre les communes. Alors, les exemples qu'on donne, c'est toujours les exemples extrêmes, mais une fois pour une messe, j'ai fait 100 km. 50 allers, 50 retours. Voilà.
Alors, la campagne, le monde rural, hein, que vous avez connu lorsque vous avez été ordonné prêtre, hein, il y a 52 ans, c'était évidemment extrêmement différent. Les églises étaient beaucoup plus remplies. Aujourd'hui, à peu près 350 paroissiens pour 4 paroisses. Aux messes, au mieux une 40-60 de fidèles présents. Comment vous vivez ça, cette déchristianisation du monde rural? Comment le vivez-vous, mon père?
Comme souvent, je ne pose pas la question comme ça. Essayer de dire. C'est déchristianisation, il faudrait qu'il y ait eu une christianisation. Et on a souvent dit en Berry que c'est ça qui manquait. Il y avait une pratique religieuse. Il y avait, dans le sud du Berry, donc, il y a beaucoup de lieux de pèlerinage. Alors, il y a des endroits où vraiment c'est quelque chose d'important, et puis il s'y passe quelque chose. D'autres, c'est vraiment la tradition. Hein. Donc, moins de pratiques religieuses, ça d'accord, ça. C'est vrai, ça, sans aucun doute. Mais en fin de compte, c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'Église, c'est ce qu'on retrouve dans le monde. Moi, j'ai toujours retenu peut-être une des choses quand même de ma formation au séminaire. Je me souviens toujours de ce professeur de l'Église qui nous disait que l'Église doit être dans le monde. Eh bien, donc on doit retrouver dans l'Église les tensions du monde. Sinon, elle est à côté du monde et elle n'a pas sa place.
Jesus love is a very wonderful, Jesus love is a very wonderful, Jesus love is a very wonderful, oh wonderful love.
Le père Roberto Bejacou, 39 ans, est le curé d'Argenton-sur-Creuse qui comprend 4 paroisses. Il est arrivé en septembre 2019 avec 2 autres prêtres comme lui du Bénin. Tous 3 sont ce que l'on appelle des prêtres fidei donum, envoyés par leur évêque au titre de la mission. Sur les 7000 prêtres de moins de 75 ans en France, il faut savoir que 2000 viennent de l'étranger, soit près d'un tiers, et la majorité vient essentiellement d'Afrique francophone. Depuis 3 décennies, ils viennent pallier le manque de prêtres dans les villes et les campagnes, ce qui n'est pas sans poser des difficultés pour ces hommes d'église qui ne sont pas préparés à vivre un choc culturel et ecclésial. On écoute le père Roberto.
Oui, ce n'est pas facile de quitter son pays, surtout pour un long séjour. D'abord, en quittant ton pays, on ne sait pas à quel horizon on va. On ne connaît pas forcément toutes les réalités qui vous y attendent. Donc, on a toujours une appréhension en quittant son pays pour un autre. Voilà.
En même temps, vous dites que ça fait partie de la mission.
Oui, la mission du prêtre, c'est de partir. Un prêtre ne peut pas présumer être sédentaire, comme le Christ, un itinérant. Donc, il doit être prêt à partir à tout moment, surtout là où le besoin se fait sentir, pour l'annonce de la bonne nouvelle.
Alors, les zones rurales, vous connaissiez, puisqu'au Bénin, vous avez vécu en zone rurale. Dans le même temps, une zone rurale en France, ça n'est pas la même chose, surtout une zone rurale dans le centre de la France.
Oui, parler du monde rural en France est totalement différent du monde rural en Afrique. En milieu rural, en France, surtout par rapport à notre pastoral, donc la difficulté à évoquer, c'est d'abord ce manque de vivacité au niveau des communautés. Il y a des communautés d'anciens, de personnes âgées, alors que chez nous, même en milieu rural, on a plus l'enfance et la jeunesse. Donc ça fait partie des difficultés qu'on pourrait évoquer. Et puis aussi, on pourrait noter que les quelques-uns qui se rendent disponibles pour le travail et pour la pastorale ne sont pas forcément ouverts aux autres. Donc on constate que chacun travaille à son niveau sans pour autant coordonner les activités pastorales.
Et le rôle du curé, le rôle du prêtre, c'est justement ici d'essayer de faire cohésion.
Oui, de créer du lien, créer du relationnel pour que, travaillant dans le même champ pastoral, on puisse coordonner les actions pour avoir le résultat, un résultat communautaire, disons. Voilà.
En Afrique, c'était totalement différent. Au Bénin, dans les campagnes, la question de la cohésion ne se posait pas ?
Pas du tout, ça ne pouvait même pas se poser parce que c'est pas comme ici où chacun est, disons, enfermé chez soi. Chez nous, même au cœur d'une famille, déjà, tout le monde se connaît. Et dans une agglomération, tout le monde se connaît. On peut se fréquenter facilement. Donc, à l'église, forcément, ce qui se passe dans un groupe est forcément reconnu par l'autre groupe. Donc ça se passe un peu comme dans un brassage. Donc il n'y a pas cette distance qui s'observe ici en France. Il y a cette vie fraternelle, cette chaleur fraternelle qui continue d'animer la vie de la population rurale en Afrique, du moins pour l'expérience que j'ai eu à faire.
Votre contrat, si je puis dire, est de 3 ans. Est-ce que ça vous paraît un temps long ? Est-ce que vous vous dites, oh là là, ce ne sont pas des conditions très faciles, pas toujours très motivantes ? Est-ce que ça vous semble long, ces 2 ans encore devant vous ?
Au regard de ce que nous avons à faire, nous pouvons dire que ça pourrait être court. Alors, si nous établissons un projet donc de conversion pastorale, disons, au niveau des communautés dont nous avons la charge, ça pourrait prendre plusieurs années. N'empêche que d'autres viennent continuer ce que nous aurons commencé. Il serait difficile de nous dire que 2 ans pourraient suffire pour faire le travail.
Et est-ce que vous dites la France se déchristianise et encore plus les zones rurales et il y a peut-être plus grand-chose à faire? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites non, il faut pas baisser la garde, il faut mener l'action?
La France déchristianisée, c'est vrai. Ce que nous sommes venus voir sur le terrain ne nous permet pas de baisser les bras. Il y a du potentiel et il y a encore de l'espoir. Parce que les quelques-uns qui viennent vivent vraiment leur foi. Ils sont fidèles à ce qu'ils croient et ils sont prêts à repartir. Seulement que dans leur élan, ils n'ont pas cette synchronie dans leurs activités.
Père Roberto, quel objectif vous fixez là pour la rentrée 2020, hein, au mois de septembre, et puis les 2 années qui viennent?
Oui, ce sera surtout d'encourager et d'accompagner les initiatives pastorales de proximité. Il y en a dans les groupes, dans le CMR, MRJC, dans le CEM, même dans les équipes d'accompagnement du deuil, ça existe déjà. Donc, il y a cette activité, cet élan au cœur de chaque groupe, mais il faudra les encourager, former les acteurs, les leaders, et puis les amener à coordonner les actions avec tous les autres groupes. Parce qu'on est dans le même champ pastoral, on est là pour la même mission, nous ne pouvons pas aller en rang dispersé, on y va ensemble, donc on va conjuguer les efforts. Il est vrai, comme on le dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Le père Roberto Bejacou, curé d'Argenton-sur-Creuse, et le MRJC et le CMR dont il vient de parler, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne et également chrétien en monde rural. Le père Thomas d'Aquin est le vicaire de la paroisse d'Argenton-sur-Creuse. Arrivé en septembre 2019 avec le père Roberto, il évoque son parcours.
J'ai été ordonné en 2016 à 26 ans. Et les 3 années qui ont suivi mon ordination, je les ai passées dans une école catholique comme censeur, on va dire un peu directeur des études et comme économe. Et c'est après ces 3 années que l'évêque m'a proposé la mission de Bourges. Que j'ai accepté et pour laquelle je suis venu.
Est-ce que pour vous, ça a été une surprise, votre arrivée ici, dans ce monde rural, évidemment extrêmement différent du monde rural béninois?
Bien sûr, ça a été une surprise. D'abord, qu'on me demande à moi de venir, parce que je me disais que je n'étais pas forcément le plus à même de venir. Voilà. Et donc, déjà, qu'on me demande à moi, ça a été une surprise. Et ensuite de débarquer ici, c'est la toute première fois que j'arrive en France, la toute première fois que je viens en Europe, et voilà, donc ça a été, on va dire, un noviciat pour moi. Beaucoup de choses ont été surprenantes, et parfois difficiles, parfois très heureuses aussi, de voir qu'il y a presque un fossé en certains points entre les réalités d'ici, la vie en France, et la vie chez moi, au Bénin.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette campagne française du Limousin et Berry?
En termes de surprise au niveau de la vie, de foi, de la vie à l'église, j'ai remarqué à cet effet que les gens étaient animés d'une foi très simple, voilà, une foi, on va dire, naturelle, pure, et très chaleureuse, voilà. Donc ceux qui viennent à la messe, ils y viennent, voilà, pas par formalisme, mais parce qu'ils sont convaincus de ce pourquoi ils sont là, et forcément ça rejaillit sur le sérieux de ce qu'ils font pendant la célébration. Par contre, il y a des éléments qui m'ont un peu rebuté, qui m'ont choqué, qui m'ont heurté, voilà, ou plus simplement qui continuent de me poser des questions, voilà, et des choses auxquelles je réfléchis avec mes confrères aussi. Déjà, c'est que dans les églises, la tranche d'âge est très avancée. Et ceux qui viennent sont pour la plupart des gens très âgés, des gens, on va dire, à la retraite, ce qui est, semble-t-il, courant dans les régions rurales en France, parce que les plus jeunes vont dans les régions plus urbaines pour le travail, pour les études, voilà, ça se comprend. Mais toujours est-il que cela fait que, voilà, dans les églises, il n'y a pas grand monde. Donc les églises sont, c'est peut-être un peu trop péjoratif, mais quasiment vides, en fait, pour les célébrations. Ça rejaillit forcément sur la liturgie, que je sens un peu monotone, en fait, ici, voilà, et austère. Nous sommes habitués, chez nous, à des liturgies plus vivantes, plus rythmées, à une ambiance plus festive, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Et pour être très honnête, ça continue de me heurter jusqu'à maintenant. Pour finir, un autre point qui me pose des questions, c'est le manque d'engagement de beaucoup de ceux qui viennent à la messe. On sent qu'ils ne veulent pas tellement intervenir dans la vie paroissiale, dans l'organisation, dans les groupes, dans les structures qui composent la vie.
Vous voulez dire, voilà, qu'ils viennent à la messe et puis c'est tout, ils repartent et puis c'est fini. Donc la vie paroissiale se limite à la messe.
À la messe, ouais. Donc la vie paroissiale pour ces gens-là se limite aux célébrations, et tout l'aspect organisationnel, structurel, voilà, ça ne leur dit pas grand-chose. Et du coup, il y a une poignée de personnes qui sont, on va dire, aux commandes, et ce sont ces personnes-là qui font tout le temps, tout. Voilà. Donc, ils sont ici et là à la fois parce que, voilà, on manque de 109, on manque de personnes qui veulent s'engager pour suppléer au manque.
Est-ce que parfois, Père Thomas d'Aquin, vous êtes un peu découragé?
Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on voit toutes les belles choses qu'il y a, tout le potentiel qu'il y a, quand on voit aussi les personnes qui sont prêtes à vous accompagner, qui font des choses extraordinaires, vous vous dites, vous n'avez pas le droit de vous décourager. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour voir que tout est rose, on est là pour faire quelque chose. Et chaque fois qu'on remarque qu'il y a un creux, qu'il y a un vide, ça signifie que voilà, c'est pour cela qu'on est là et qu'il y a du travail à faire.
Est-ce que vous vous sentez effectivement ici, en Berry-Limousin, en mission, comme on dit ?
Bien sûr, oui, je me sens en mission, on se sent en mission ici, d'abord du fait qu'on ait été envoyé, justement. Et après, comment est-ce que je ressens cette mission? Moi, pour moi, je me dis, je suis là pour être un signe pour les autres, en fait. Un signe que le Christ a encore quelque chose à nous dire, que l'Église a encore quelque chose à signifier pour nous, pour notre société française qui est hyper développé, hyper industrialisé, qui, en certains points, semble croire que, voilà, qu'on n'a plus besoin de Dieu, qu'on n'a plus besoin du Christ, qu'on n'a plus besoin de l'Église. Et ensuite, je sens que la présence du prêtre doit être justement, voilà, ce qui nous rappelle qu'il y a une nouvelle façon de vivre l'Évangile au jour le jour. Une façon très simple, très, très fraternelle, très, très chaleureuse d'être présent aux autres, d'être amour aux autres, d'être pour les autres, ce qui signifie que l'amour c'est encore possible, que la joie, malgré toutes les difficultés, ça signifie encore quelque chose, qu'on peut aller de l'avant avec Dieu.
Le Père Thomas d'Aquin, vicaire d'Argenton-sur-Creuse.
Moi, c'est le Père Évrard Zinsou. Je suis prêtre ordonné depuis le 5 juillet 2014, donc à l'âge de 29 ans. Donc j'ai 5 ans d'ordination déjà, bientôt 6. Et voilà, donc j'ai été vicaire sur la paroisse d'ordination 1 an. Et après, c'est 4 ans sur une paroisse que le Seigneur m'a confiée pour être curé. Voilà. Et c'est de là-bas que je débarque ici dans le Berry, et voilà, pour aider à la mission ici.
Surprise également, comme... comme le père Roberto, comme le père Thomas d'Aquin?
Pas tellement, parce que par le passé, j'ai eu la chance de faire déjà 3 expériences de la France et 2 expériences à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, et une expérience à Parthenay, dans le Poitou-Charentes. De façon générale, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est juste que la mission ici en France, on a l'impression que ça se déploie surtout de façon très administrative, où c'est plus les papiers, c'est plus les mails à envoyer, les mails auxquels il faut répondre, que la spontanéité de la mission. Chez nous, au Bénin, une idée que le curé a se met très vite en route, c'est bien sûr en prenant le conseil de ceux qui l'entourent, mais ici, ça prend le temps. Si bien que il faut vraiment se projeter sur une longue durée avant de réaliser quelque chose. À un moment donné, ça effrite un peu la spontanéité missionnaire ou l'inspiration qu'on a au départ. Si bien qu'on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser, est-ce qu'il faudrait... Donc ça freine vraiment la spontanéité missionnaire, voilà. Donc aussi ce plan, c'est quand même une surprise. Maintenant après, il y a que les gens ont vraiment envie de connaître Dieu. On sent cette soif-là quand même, malgré tout. Même pour ceux qui ne viennent pas à la messe. L'expérience que nous faisons là maintenant des méditations le prouve très bien. On sent que même quand ils ne viennent pas à la messe, ils ont cette envie de Dieu. Et ça nous enchante beaucoup.
Vous avez, comment dirais-je, mis sur pied une expérience de méditation.
Voilà, donc à la faveur de la Covid, et voilà, pour remplir un peu le vide, on s'est dit qu'il faudrait qu'on écrive chaque jour par mail une méditation de tous les tests du jour. Mm-hmm. Et on a senti que les gens étaient en raffolent. Voilà, ils sont très contents de ça. Si bien qu'on se dit, voilà, que au moins l'Esprit Saint a soufflé par là. Et donc, il ne veut même pas qu'on arrête là, maintenant, alors que nous sommes en période de déconfinement. Et donc, ça nous encourage, ça voudra dire qu'il y avait cette soif-là qui existait, mais justement, on n'avait pas eu ce qu'il fallait pour étancher cette soif-là chez eux. Mais justement, l'Esprit Saint nous a soufflé ça, et je pense que ça fait son petit bonhomme de chemin.
Alors, il n'y a pas beaucoup, Père Évrard, de jeunes dans vos paroisses, hein? Cela dit, il y a des jeunes dans la campagne hein, qui appartiennent à Chrétiens au monde rural, le MRJC, etc. Bon, il y a des jeunes dans la campagne quand même, même s'il n'y en a pas beaucoup qui viennent à la messe. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour eux?
Voilà, donc nous sommes venus constater justement qu'il y a vraiment une sorte de désertification par rapport à la population jeune qui vient à la messe. Et aussi que, de façon générale, il y a un peu comme un genre de cloisonnement où chaque groupe vit un peu de façon autonome. Donc il faudrait qu'à la longue, nous pensions créer une synergie d'action, donc à faire appel aux jeunes pour qu'ils viennent massivement ou quand même un peu à la messe, et aussi créer une sorte de cohésion entre les groupes et les associations. Et moi, je pense que la meilleure formule pour moi personnellement, c'est justement qu'on crée la fête. L'église est faite de toute façon. L'expérience a montré que quand il s'agit de fêtes, les gens viennent spontanément, sans qu'on les supplie.
Que vous pensez à quoi comme fête, par exemple?
Ben, des fêtes, donc voilà, organiser des repas partagés, la table du curé, par exemple, on a vu faire ça récemment quelque part, et créer des jeux, surtout pour les jeunes, parce qu'ils aiment ça. De plus en plus, le jeune est attiré par ce qui est virtuel, ce qui est le jeu de table, ce qui est... Donc, créer ces jeux-là, surtout pendant l'été, pendant les étés que nous aurons à passer, et voilà. Donc, vraiment créer la fête. Je pense qu'il n'y a rien à faire, ça va prendre.
Oui, la table du curé, quelques mots sur la table du curé?
Oui, la table du curé, on a vu faire ça à Neuville-Saint-Sépulcre, par l'un de nos coffrets africains. Donc nous y sommes allés tous, c'était au début de notre arrivée ici. Et mine de rien, il y avait au moins 500 personnes, à peu près, mobilisées. Hein. Pas nécessairement des chrétiens catholiques. C'est parce que donc le père a un jardin. Donc de son jardin, il a nourri presque tout le monde. Évidemment avec la complicité des fidèles, la contribution des fidèles. Et on a vraiment été surpris de ça. Ça voudra dire que... La fête rassemble toujours. La fête rassemble toujours au-delà des clivages, au-delà des bords, au-delà des différences. La fête rassemble. Et il faudrait qu'on y pense.
Comme ces trois prêtres béninois, ils sont donc 2000 en France, hein, je le disais, à combler avec générosité le manque de prêtres et à assurer une transition vers un nouveau visage d'église dont les contours ne sont pas encore clairement dessinés. Nous laisserons donc le mot de la fin au père Daniel Godest avec cette interrogation. Quid de l'église de demain dans les campagnes quand ces prêtres venus de l'étranger rentreront chez eux ?
Malgré mon prénom, je ne suis pas prophète. Bon, la suite, je ne sais pas. Le seul événement de l'Église primitive qui m'anime, c'est qu'au début, lorsqu'il y a eu un problème donc dans l'Église primitive pour la répartition des dons dans les communautés, on a créé les diacres pour répondre à un besoin. Pourquoi aujourd'hui, on n'aurait pas encore à inventer une autre manière de vivre l'Église? Et je me dis que dans des pays où ils rencontrent un prêtre tous les mois ou deux fois dans l'année, ils vivent bien de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, naturellement, on a une tradition, hein, de pratique. Ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est une bonne chose. Mais bon, on n'est plus dans ce contexte-là. On a peut-être à inventer. Alors, moi, je ne veux pas supplanter l'Esprit Saint. Il essaiera bien de dire, de faire comprendre ou de faire découvrir des gens dans quelle direction ils vont. Et puis je me dis qu'à mon âge, c'est pas moi qui pourrais impulser quelque chose.
Et cela dit, vous êtes plutôt favorable à une autre façon, donc, comme vous le dites, de faire église, c'est-à-dire où les laïcs prennent plus de place.
Où les laïcs prendront leur place de baptisés. J'allais dire, bon, on leur a prise cette place, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres. Il faudrait peut-être que les baptisés retrouvent leur place dans l'Église. On a fait le lien entre sacerdoce et responsabilité. La question se pose. Est-ce que automatiquement, le sacerdoce ministériel, hein, parce que chaque baptisé a un sacerdoce aussi, là, mais le sacerdoce ministériel, est-ce qu'il doit automatiquement être responsable ? C'est vrai que canoniquement, c'est ça. Mais la question peut se poser. Et donc, il existe bien, même dans le droit canon, qu'une paroisse qui n'a plus de prêtre pourrait avoir une équipe de laïcs qui serait en responsabilité de la paroisse. Donc, le responsable de la paroisse et le sacerdoce ministériel ne sont pas forcément liés, à mon avis. J'attends que des théologiens ou des canonistes me contredisent. C'est possible.
Ainsi se referme ce reportage sur les curés en monde rural, réalisé dans la Marche Limousine et dans l'Aube. Vous pourrez réécouter ce reportage sur la page Facebook de l'émission. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Bonjour.